Le théâtre est un endroit où on va pouvoir aller voir les choses les plus horribles de l'existence.
Jérôme Bel.
Je fais référence là au théâtre occidental et à la naissance du théâtre occidental qui est la tragédie grecque. Et effectivement, c'est un endroit où on va pouvoir vivre des choses affreuses tout en sachant que c'est faux.
Ça peut pas faire de mal.
Puisqu'après, on va applaudir, les acteurs qui sont morts vont se relever, vont venir saluer. Et c'est pour ça qu'on accepte de voir ces choses-là. Et c'est pour ça, mais bon, ça c'est l'histoire de toute la représentation. La représentation aide les êtres humains à pouvoir comprendre des choses terrifiantes sans avoir à les subir.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Quand on parle de théâtre, de danse ou de spectacle vivant, on ne peut faire l'impasse sur l'évidence de la présence, de l'être là. Or, cette qualité demande à être questionnée. Pour moi, elle ne va pas de soi, d'où l'absence, la disparition, la mort même, puisque, sans aller plus loin dans ma biographie, j'ai vraiment commencé mon travail après avoir perdu des proches. Il y a eu aussi perte de la danse dans mon travail, et la question est, qu'est-ce qui s'est substitué à cela ? Dans le dernier spectacle, je pose la question différemment en mettant en perspective tous ces éléments. Je place la danse à côté des corps, des signes, des voix. Et là encore, je produis la disparition. En fait, la pièce ne cesse de rejouer la disparition comme principe du spectacle vivant. On perd, on n'arrête pas de perdre, on n'arrive à rien. Je sais qu'on touche au cliché, mais quelque chose naît de cette idée qui a un rapport avec la postmodernité. Pas celle qu'on connaît, pas une postmodernité qui ne serait plus l'attente du bonheur, la peur du malheur ou le désir d'une rédemption. J'ai le sentiment que cette postmodernité, que j'appellerais volontiers post-mortémité, ne peut plus se juger selon des critères de bien, de mal, de début, de fin, d'accomplissement ou encore de tragédie-comédie. Il n'y a plus de morale ni d'idée de progression linéaire vers le bonheur, promesse faite par la modernité. C'est en termes d'intensité qu'elle se pose. D'expériences d'intensité qui nous traversent. Parce que la seule certitude qu'on a pour l'instant, c'est la mort. Or, la prochaine grande rupture, c'est qu'à très long terme, on va arrêter de mourir. Tout est mis en place pour qu'on ne meure plus. Pour l'instant, seul le théâtre permet cela. Le théâtre est le seul endroit où l'on peut ne plus mourir. C'est une vraie question de mise en scène. Après la disparition, qu'est-ce qu'il y a ? Réponse : le théâtre. Ce manifeste est signé par un artiste hors norme dont les pièces ont longtemps fait scandale, le chorégraphe Jérôme Bel. Dans ce texte, écrit d'un entretien avec Gilles Almalvi, l'artiste évoque chacune de ses créations dont les titres interrogent le rapport au spectacle. Nom donné par l'auteur, Jérôme Bel, le dernier spectacle, The Show Must Go On, Disabled Theatre, Gala, sans oublier sa prochaine performance qui sera créée en fin d'année sous le titre provocateur, Un spectacle en moins. Avec 8 pièces à l'honneur, Jérôme Bel est l'artiste associé de cette nouvelle édition du Festival d'automne à Paris qui s'est ouvert il y a tout juste un mois. Avec, côté théâtre, l'adaptation de La pitié dangereuse de Stefan Zweig par le metteur en scène anglais Simon McBurney. De Zweig à Tchekhov, en passant par Tocqueville et Thomas Bernard, sans oublier les contemporains Mohamed El-Khatib, Vincent Thomaset, Laila Soliman, nous vous invitons ce soir à découvrir les auteurs qui seront à l'affiche des théâtres parisiens jusqu'à la fin de l'année. Levons le rideau sur quelques moments forts de la saison à venir. Après la danse, il y a un autre langage qui prend corps sur scène. En ce mois d'octobre, c'est Tchekhov qui est à l'honneur, avec par ailleurs la reprise du magnifique Oncle Vania, mise en scène par Julie Deliquet au Théâtre du Vieux Colombier. On retrouvera d'ailleurs Julie Deliquet en clôture du Festival d'automne, avec Mélancolie, une nouvelle création collective inspirée des Trois Sœurs. Cette semaine, la langue de Tchekhov fait l'objet d'une étonnante adaptation en langue des signes. Orchestrée par le metteur en scène russe Timofey Kouliabine, cette proposition redonne toute sa force et sa résonance à l'un des textes les plus joués du répertoire russe. Le spectacle se joue encore ce soir à 19h30 et demain dimanche à 15h aux ateliers Berthier Odéon. Pour goûter à l'atmosphère des trois sœurs, voici l'un de ces passages où le temps semble suspendu entre présent et avenir. Nous sommes à l'acte 2, la scène réunit le baron Tusenbach et le commandant Verschinin en présence de Masha. L'un croit à l'immuable, l'autre espère le changement. Traduction d'André Markowitz et Françoise Morvan aux éditions Actes Sud Babel.
Ma foi, s'il n'y a pas de thé, philosophons. Très bien, à quel sujet? Quel sujet? Rêvons un peu, par exemple, à la vie qu'il y aura après nous, à 200 ou 300 ans d'ici. Ma foi, après nous, on volera en montgolfière, les vestons changeront de coupe, on découvrira peut-être un sixième sens, qu'on développera, mais la vie restera semblable. Difficile, pleine de mystères et heureuse. Et dans 1000 ans, les hommes gémiront de la même façon. Ah, que la vie est dure. Et en même temps, exactement comme aujourd'hui, ils auront peur de la mort et ils ne voudront pas mourir. Comment vous dire? J'ai l'impression que tout sur Terre est destiné à changer petit à petit et que tout change déjà sous nos yeux. Dans 200 ou 300 ans, 1000 ans si vous voulez, ce n'est pas une question de durée, une vie nouvelle, heureuse commencera. Cette vie, nous n'en serons pas bien sûr, mais c'est pour elle que nous vivons aujourd'hui, que nous travaillons, que nous souffrons, enfin, c'est nous qui la créons. C'est cela seul le but de notre existence, et si vous voulez, notre bonheur. Qu'est-ce qu'il y a, machin? Je ne sais pas, je n'arrête pas de rire aujourd'hui, depuis ce matin je ris. Non, j'ai interrompu mes études au même stade que vous, Nikolaï Lvovitch. Je n'ai pas fait l'académie militaire. Je lis beaucoup. Mes livres, je ne sais pas trop les choisir et aussi bien, je ne lis pas du tout ce qu'il faudrait. Et pourtant, plus je vis, plus j'ai soif de savoir. Mes cheveux grisonnent, je suis déjà presque un vieillard, mais je sais peu de choses. Oh, si peu. Et quand même, j'ai l'impression que l'essentiel, ce qui compte vraiment, je le sais. Je le sais pour de bon. Comme j'aurais envie de vous démontrer qu'il n'y a pas de bonheur, qu'il ne doit pas en y avoir et qu'il n'y en aura pas pour nous. Nous devons seulement travailler, travailler encore. Le bonheur, ce sera le lot de nos lointains petits-neveux. Si ce ne sont pas les miens, du moins les petits-neveux de mes petits-neveux. Même pas le droit de rêver au bonheur, d'après vous. Et moi, si je suis heureux? À l'évidence, nous ne nous comprenons pas. Mais comment vous convaincre? Oh, riez, machin. Sans parler de 200 ou 300 ans, même dans 1 million d'années, la vie, elle restera ce qu'elle a toujours été. Elle ne change pas, elle est immuable, elle suit ses propres lois, qui ne nous concernent pas, ou du moins que vous ne connaîtrez jamais. Les oiseaux migrateurs, les grues par exemple, ils volent. Et quelles que soient les pensées, nobles ou pas, qui leur passent par la tête, ils continueront de voler, sans savoir ni pourquoi, ni vers quoi, ils volent. Et ils voleront toujours, quels que soient les philosophes qui surgissent parmi eux. Et d'ailleurs, qu'ils philosophent tant qu'ils veulent, du moment qu'ils volent. Mais quand même le sens, tenez, il neige, où est le sens? Voyageons dans le temps et découvrons ce qui attend les générations futures justement. Chez Tchekhov, les trois sœurs semblent attendre un bonheur qui ne viendra jamais, ni par le travail, ni par le mariage, ni par Moscou, contrarié par le destin. Ce jeu cruel de la vie et de la mort, cette répétition du drame de génération en génération, est l'un des thèmes de prédilection d'un jeune auteur actuel qui réinvente une forme de théâtre du deuil, Mohamed El-Khatib. Après un premier spectacle bouleversant où il évoquait la maladie de sa mère, l'artiste continue à bousculer les frontières entre art et réalité. Cette année, il fait son entrée au Festival d'automne avec deux créations. L'une, Stadium, explore la parole collective de supporters sportifs. La seconde, C'est la vie, interroge la parole intime face à la perte d'un enfant. Ouvrons ce texte qui fait résonner le sentiment de vide et l'absurdité de la vie. La pièce est publiée au Solitaire Intempestif. Le spectacle se jouera du 30 octobre au 7 novembre au Théâtre Ouvert, puis du 10 au 22 novembre à l'Espace Cardin. Écoutons la voix de Fanny. Et puis il y a les associations. C'est toujours un peu long les noms parce qu'il n'y a pas de mots qui existent pour les parents qui ont perdu un enfant. Donc les associations s'appellent souvent « Association des parents qui ont perdu un enfant » en un seul mot. C'est curieux que le français ait délaissé ce territoire. Ça existe en hébreu, shakoul, l'ours à qui on a enlevé sa portée. En arabe, takal, qui a perdu ses bourgeons, mais rien pour la langue française. On a essayé de réparer cette injustice faite aux parents orphelins à l'envers.
mais on n'a pas trouvé de mot qui soit assez puissant pour rendre compte du séisme intime qui nous traverse. On n'a pas trouvé de mot qui ne soit pas trop brutal pour ne pas nous séparer davantage des autres vivants, qui soit suffisamment élégant et qui soit même agréable à l'oreille. On ne demande pas une cellule de crise, pas même une cellule d'aide psychologique, non. On veut juste un mot juste pour nous consoler. Alors on cherche encore. Il y a des jours où j'ai envie d'être triste, triste à mourir. Il y a des jours où j'ai pas envie d'être une gagnante, où je veux rien d'autre que merder sur toute la ligne. J'ai pas envie de réussir, pas envie d'arriver la première, pas envie de faire un sans faute, pas envie de faire la bonne rencontre, celle qui change tout. J'ai envie que rien ne change et de ne rien entreprendre qui puisse avoir le moindre succès. J'ai envie d'arriver au pied du podium, d'arriver quand la lumière s'éteint, de rester tout en bas de l'échelle, au-dessous du niveau de la mer, à -7 sur l'échelle de Richter, de m'appliquer à absolument tout foirer. Zéro carrière, zéro vie amoureuse, zéro vie sociale. Mais pour ça, il faudrait qu'enfant, on nous apprenne à avoir foi en l'échec, qu'on nous montre comment se faire marcher dessus et aimer sa défaite. Comment devenir un perdant avec panache? Pas un petit perdant de la semaine au rabais, non. S'appliquer à perdre gros, et ça demande de la détermination. Perdre avec audace, se vautrer avec classe, profiter de chaque seconde de sa chute sociale. Faire dérailler la petite machine de guerre qu'on se fabrique pour ne plus jamais gagner. Ne plus être programmé pour réussir, mais pour vivre.
Faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Tell me what once was mine.
continuant à explorer les écritures actuelles. À mi-chemin entre l'improvisation et le texte, un jeune auteur et metteur en scène interroge le pouvoir de la parole. Il s'agit de Vincent Thomasset. La prochaine création s'intitule « Ensemble, ensemble ». À partir d'un travail rythmique sur les mots, dissociant le sens et les sons, l'artiste propose un parcours polyphonique à quatre voix, qui se veut autant de résonances du même espace mental. Ce dispositif spatial et sonore s'installera au Théâtre de la Bastille du 18 au 24 octobre. Découvrons l'une des séquences du spectacle intitulée « Dans l'escalier », où se télescope le passé et le présent entre réalité et irréalité. Un jour, j'étais chez moi. Je te parle de ce moment parce qu'il me revient là, je sais. J'ai toujours voulu en parler et ce jour, je pensais « faut que je retienne, faut que je retienne, faut que je retienne ». Je savais que ça allait pas durer longtemps et ce qui se passait dans ma tête, ça se passait pas uniquement dans ma tête. Mais il se passait quoi ? Ça se passait un peu partout, comme les tremblements de terre ou ce qu'il y a autour de toi. T'ébranles, j'étais ébranlée, tu vois. Je suis comme ça, le pied droit en avant, le pied gauche en arrière, je sais pas comment dire. Franchement, m'interromps pas, sinon je vais perdre le fil. Je suis comme ça. Et je sais pas si je suis arrêtée ou au ralenti, mais ce qui se passe, ça dure un temps très court. Je sais pas si c'est des secondes ou quelques minutes, plutôt des secondes. Mais à ce moment-là, ce qu'il y a autour de moi et à l'intérieur de moi, tout ce qui se passe, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, je traverse un moment particulier que j'ai jamais retraversé, je crois, ou alors juste entrevu. Tu sais, ces moments où t'as hyper conscience de tout ce qui t'entoure. Du coup, tu te retrouves avec des pensées, ou pas des pensées, mais le résultat de toutes les pensées accumulées. Pas d'ailleurs, peut-être pas des pensées, des sensations, des choses accumulées depuis des années et qui d'un coup, en quelque sorte, trouvent leur aboutissement. Mais t'étais où ? Dans les escaliers, chez moi, chez mes parents. T'as quel âge à l'époque ? Je sais pas, 14 ans, peut-être 15, 16, je sais pas, 15 max. Je suis encore chez mes parents, je remonte dans ma chambre et c'est à ce moment-là que ça se passe. Mais il se passe quoi ? Tu comprends pas ? Je me retrouve au milieu des choses. Je suis au milieu des choses. Avec la sensation intime que ça peut pas durer, que ça va pas durer. Et en même temps, c'est comme si j'accédais l'espace d'un instant à un temps infini qui dépasse tout ce qu'il y a autour de toi. Je peux pas dire vraiment plus et en même temps, je voudrais prendre le temps. C'est une façon de le garder. De le garder. Oui. Après toutes ces années d'y repenser, c'est une façon de le garder. De le retraverser. Et puis, en quelque sorte, à ce moment, j'étais déjà là aujourd'hui. Pas comme ces moments que t'as l'impression d'avoir déjà vécu, liés à des endroits ou des images. Non. Plutôt le contraire. Comme si aujourd'hui, en parlant de ce moment-là, je revivais le moment que j'attendais de vivre aujourd'hui, mais autrefois. Ce jour-là. Dans les escaliers. Ado. En train de me dire ce que je me dis aujourd'hui. Restons dans le registre de l'irréel et de l'étrange. Reprenons notre voyage dans le temps. Nous voici dans la France rurale à la fin du 19e siècle, dans une campagne isolée par une sombre nuit d'hiver. Un double meurtre est commis. Ce décor inquiétant est celui d'un roman policier à la Simenon qu'entreprend un grand écrivain qui avait délaissé l'écriture depuis quelques années, Georges Bernanos. En 1935, l'auteur publie ce court texte, Un crime, écrit par nécessité. Et qu'il qualifiera d'idiot. L'ouvrage n'en garde pas moins cette lucidité sur la condition humaine qui a fait le succès de son célèbre roman « Sous le soleil de Satan ». Ouvrage méconnu, Un crime fait aujourd'hui l'objet d'une adaptation scénique par le jeune metteur en scène Jonathan Capdevielle, qui fait lui aussi son entrée au Festival d'automne. La pièce se jouera du 23 novembre au 3 décembre au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Ouvrons les premières pages de ce polar, où la plume de Bernanos excelle à susciter le trouble à la frontière du fantastique. Nous sommes dans un petit presbytère où une vieille servante veille le corps du prêtre de la paroisse qui vient de mourir. Le texte est publié aux éditions Castor Astral. La lampe du vestibule, dont elle avait baissé la mèche, répandait dans toute la pièce, avec l'odeur du pétrole, une légère fumée encore invisible, mais qui la fit tousser plusieurs fois. Elle revint s'asseoir à sa table, la tête entre ses mains, vaguement attentive au grand remous du vent dans la vallée, au balancement régulier, aussi régulier que le double battement d'un cœur d'homme et qui, depuis 60 années, avait tant de fois bercé son sommeil. Quand elle rouvrit les yeux, la fumée qui remplissait la pièce lui fit d'abord cligner les paupières. Ce qu'elle venait d'entendre était à peine un bruit, car elle n'aurait pu le situer en aucun point de l'espace. Et cependant, il semblait que ce bruit n'eût pas cessé, continua de flotter autour d'elle, tout proche. « Tiens !» dit-elle à haute voix. « Le vent est tombé. » Sans qu'elle puisse expliquer pourquoi, cette constatation la rassura, et elle se sentait aussi alerte qu'à l'aube. Le silence était profond. L'horloge elle-même s'était tue. Elle marquait 2 heures du matin. « Ça doit aller maintenant sur 5 heures, » fit-elle. Elle résolut de descendre à la cuisine pour s'y faire un peu de café. Une de ses pantoufles avait glissé sous la table pendant son sommeil, et comme elle se penchait pour la ramasser, elle se redressa brusquement, courut à la fenêtre, appuya un moment son front au carreau glacé, l'oreille aux aguets, puis elle ouvrit la fenêtre toute grande. Le presbytère, racheté par la commune aux héritiers de la veuve Lombard, n'était autrefois qu'une maison presque sordide, d'ailleurs assez mal famée. La maison avait 2 entrées, l'une sur la gauche donne accès à la cuisine par une simple porte vitrée que la nuit protège un volet de fer. L'entrée principale, au centre de la façade, orientée vers l'est, est précédée d'un perron. La façade opposée donne sur une cour étroite où l'on entasse le bois sous un grand hangar. Ce fut vers l'angle le plus obscur de la charmille que le regard de Mademoiselle Céleste se porta d'abord, là où aboutit les 3 sentiers que les visiteurs empruntent d'ordinaire, car il est le plus court chemin du village à cette bicoque isolée. À des yeux attentifs, la barrière récemment peinte pouvait se distinguer vaguement par contraste avec le fond plus profond du feuillage. Était-elle entrouverte ou non ? Il était difficile de s'en rendre compte, mais la servante croyait entendre le battement du loquet, le grincement léger des gonds. « Qui va là ? » dit-elle d'une voix mal assurée. La réponse lui vint aussitôt, et de beaucoup plus près qu'elle ne l'eût supposé, du pied même de la maison ténébreuse. « C'est moi !»« Qui, vous ?»« Moi, le nouveau curé de Mégère. » À cause de sa petite taille, elle dut se hausser sur la pointe des pieds pour apercevoir le long du mur, et pour la première fois, son nouveau maître. « Attendez une seconde, monsieur le curé, » fit-elle, « je m'en vais descendre. » Mais elle saisit d'abord la lampe et, se penchant de nouveau par la fenêtre, l'éleva au-dessus de la tête du visiteur. Ce qu'elle aperçut la rassura sur le champ. Le visage apparaissait très nettement juste au centre du halo lumineux et elle faillit éclater de rire. C'était bien celui d'un écolier pris en faute et qui s'efforce de donner à ses traits une expression presque comique de réflexion et de dignité. La flamme fumeuse de la lampe n'en éclairait qu'une partie, mais il était facile de voir que ses joues étaient très rouges, plus sans doute de confusion que de froid. « Vous êtes venu, » répétait-elle machinalement, « vous êtes venu. » Elle descendit aussi vite qu'elle put, poussa les verrous. Quelle singulière entrée! Il était certainement transi, mais il ne laissa paraître aucune déception lorsque, quelques instants plus tard, entrant dans la cuisine, il s'était approché du fourneau et l'avait trouvé froid. « Je désirerais, dit-il, une boisson chaude. Est-ce possible ?»« Le temps d'aller chercher un fagot, monsieur le curé m'excusera. » Elle remarqua tout à coup qu'il portait des gants de filoselle noire, mince protection contre le vent du nord. Sa soutane était usée, mais propre. Et d'un coup d'œil, elle vit que 2 boutons y manquaient. Leurs regards alors se croisèrent. « Voilà du travail pour vous, mademoiselle Céleste, » fit-il en souriant. Elle ne devait jamais oublier ce sourire qui, si vite, avait conquis son cœur, gagnait sa fidélité pour toujours. Eut-elle dès ce moment le pressentiment qu'il serait la consolation de sa dernière heure, la suprême vision qu'elle emporterait de ce monde où sa simplicité ne s'était guère étonnée de rien ? L'idée ne lui vint qu'au seuil de la resserre. Elle se retourna brusquement, comme piquée par un temps. « Comment savez-vous que je m'appelle Céleste ?» Le curé de Mégère sourit encore. « On m'a beaucoup parlé de vous hier, » dit-il, cherchant ses mots. « Et pas très clairement, je l'avoue, mais j'ai cependant retenu votre nom. » Elle grimaça de plaisir. Puis elle l'accompagna jusqu'à sa chambre, et comme il lui tournait le dos, elle eut son éternel sourire de compassion maternelle. La ceinture du nouveau curé, maladroitement serrée à la taille, s'enroulait à la hanche comme une corde. « Monsieur le curé voudra bien me laisser sa soutane à la porte, » dit-elle. « Je lui donnerai un petit coup de fer. » Mais ce coup de fer ne fut jamais donné.
way beneath the ground. It must have been the devil trying to chain my daddy down. Mountains, please don't fall on me. I said, rocks in the mountains, please, please don't fall on me. 'Cause I'm stealing way back to my old time used to be. I hope that everybody here is having a good rocking time. I hope that everybody here is having a good time. But you never, never, never know what is on my troubling mind. My grandma is dead, and my grandpa, he will not be home.
Quittons la fiction et reprenons notre voyage dans le temps. Nous sommes en Égypte maintenant, en 1919, en pleine révolution. Après avoir participé à la Première Guerre mondiale, le pays se soulève contre l'occupation coloniale britannique. Dans un petit village près de Gizeh, à Naslat al-Shobak, des femmes sont victimes de viols par des soldats anglais. Jugées par un tribunal militaire, l'affaire est vite étouffée. Après un premier spectacle consacré à la révolution dans son pays, Laila Soliman, jeune dramaturge égyptienne, donne voix à ces femmes oubliées de l'histoire. Mêlant théâtre documentaire et chorégraphie, cinq comédiennes sur scène font entendre leurs témoignages bouleversants, redécouverts dans les archives d'État presque 100 ans après les faits. Le spectacle s'intitule « Zig Zig ». Il se joue actuellement jusqu'au 21 octobre au Nouveau Théâtre de Montreuil. Il y a 3 ans, nous avons trouvé 300 pages des enquêtes sur les événements de Naslat al-Shobak, y compris le viol de paysannes égyptiennes par des soldats anglais il y a à peu près 100 ans. Nous avons trouvé le dossier dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Il existe dans ces enquêtes quelque chose de très personnel. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je ne veux pas parler de sujets personnels en public. Parlons plutôt de ce qui nous concerne tous. Dans les années 60, il fut décidé que le gouvernement de Gizeh commémorera le jour correspondant aux événements de Naslat al-Shobak le 30 mars 1919. Ils ont mis une plaque sous la statue d'un paysan qui brandit une pioche. On l'appela le combattant à la houe. Sur la plaque sont marqués les noms de ceux morts le 30 mars 1919. 19 hommes et 2 femmes, c'est tout. Quand on a trouvé les enquêtes sur les viols, l'impuissance de ces femmes, de leurs familles et de leurs époux m'avait rempli de douleur. Enfin, il ne s'agissait que de quelques paysans dans un village de Gizeh. J'avais totalement assumé la douleur de ces femmes. Je l'avais incarnée. J'avais le sentiment de devoir vivre avec, comme si en l'oubliant, cette douleur allait à nouveau disparaître et redevenir ce qu'elle était avant la redécouverte des enquêtes. Ces enquêtes étaient constamment présentes dans mon esprit. Je pensais à ces enquêtes et imaginais chaque mot, chaque mouvement. Je recréais le visage de chacune de ces femmes. Je pensais à ces enquêtes et imaginais chaque mot, chaque mouvement. Je recréais le visage de chacune de ces femmes. Malgré le fait que ces femmes ont existé dans une autre période, j'ai le sentiment qu'elles sont toujours présentes. Aïcha, fille de Midvali, maintenant. Aziza, fille de Koudaïr, même si ce n'est qu'en tant que victime de viol. Sereya, fille de Zainab, fille de Midvali. Elles sont bien plus que ça. Zainab, fille de Khalil. Ces enquêtes leur donnent une présence. Omal Sayed, fille de Mohamed. Même si ces enquêtes sont horribles. Wagda, fille d'Al-Gabn. Elles ont existé. Fatma, fille de Hassan Abu Taleb. Celles qui étaient vivantes et qui ont pu témoigner. Saada, fille de Hassanayn. Zainad, fille de Radwan. Et celles qui ont été tuées et dont les familles ont témoigné à leur place. Nazima, fille d'Al-Kurdi. Toutes sont présentes. La femme de Sulaiman Mohamed Al-Fouli. Mariam, fille de Sulaiman Al-Fouli. Même si ce n'est pas à travers leur propre voix. Aziza, fille d'Al-Sayed. Elles sont belles et bien présentes. Aziza Ibrahim Abdelhadi. Même si ce n'est pas à travers leur propre voix, elles sont belles et bien présentes.
Un morceau de théâtre, c'est de provoquer un mouvement.
Romeo Castellucci.
C'est pour ça que le théâtre, ce n'est pas du tout un objet terminé. L'objet terminé, ça veut dire qu'après le spectacle, tout est dit. Donc tout est fixé. Il y a aucune, il y a l'immobilité de la certitude d'une pédagogie, d'une forme littéraire parfois. Et moi, je crois que le théâtre doit provoquer un mouvement dans le corps et le cerveau, la pensée du spectateur. On est vivant. Et je crois que le théâtre, c'est le langage humain qui est capable, beaucoup plus que les autres arts, de doubler la vie.
Restons dans le registre de l'histoire et abordons un autre continent. Nous voici aux États-Unis en 1831. Un jeune juriste français part à la découverte du Nouveau Monde pour y étudier ses mœurs et ses institutions. À son retour, il publie ce qui deviendra l'un des plus célèbres traités de philosophie politique. Il s'agit, vous l'avez compris, d'Alexis de Tocqueville et son essai de la démocratie en Amérique. Dès 1834, l'auteur y annonce de manière prophétique des événements qui vont se réaliser, l'abolition de l'esclavage et la disparition des Indiens. Ce texte est le point de départ de la nouvelle création du metteur en scène italien Romeo Castellucci, figure emblématique du Festival d'automne. Son spectacle « Democracy in America » se joue actuellement jusqu'au 22 octobre à la MC 93 à Bobigny. Dans le passage suivant, découvrons l'esprit visionnaire de Tocqueville qui décrit à la fin de la première partie la division d'un monde binaire partagé entre l'Amérique et la Russie. Il y a aujourd'hui sur la Terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but, ce sont les Russes et les Anglo-Américains. Tous deux ont grandi dans l'obscurité. Et tandis que les regards des hommes étaient occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations et le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur. Tous les autres peuples paraissent avoir atteint à peu près les limites qu'a tracées la nature et n'avoir plus qu'à conserver. Mais eux sont en croissance. Tous les autres sont arrêtés et n'avancent qu'avec 1000 efforts. Eux seuls marchent d'un pas aisé et rapide dans une carrière dont l'œil ne saurait encore apercevoir la borne. L'Américain lutte contre les obstacles que lui oppose la nature. Le Russe est aux prises avec les hommes. L'un combat le désert et la barbarie, l'autre la civilisation revêtue de toutes ses armes. Aussi, les conquêtes de l'Américain se font-elles avec le soc du laboureur, celles du Russe avec l'épée du soldat. Pour atteindre son but, le premier s'en repose sur l'intérêt personnel et laisse agir, sans les diriger, la force et la raison des individus. Le second concentre en quelque sorte dans un homme toute la puissance de la société. L'un a pour principal moyen d'action la liberté, l'autre la servitude. Leur point de départ est différent. Leurs voies sont diverses. Néanmoins, chacun d'eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde. Restons en compagnie de Tocqueville. S'il était tout à l'heure question de révolution avec Laila Soliman, découvrons ce que le jeune magistrat français pense des révolutions à venir. Dans le second volume de La démocratie en Amérique, publié celui-ci en 1840, l'écrivain exerce à nouveau son esprit visionnaire. Voici quel danger guette, selon lui, les générations futures. Deux choses étonnent aux États-Unis. La grande mobilité de la plupart des actions humaines et la fixité singulière de certains principes. Les hommes remuent sans cesse, l'esprit humain semble presque immobile. Lorsqu'une opinion s'est une fois étendue sur le sol américain et y a pris racine, on dirait que nul pouvoir sur la terre n'est en état de l'extirper. Les plus grossiers préjugés eux-mêmes ne s'effacent qu'avec une lenteur inconcevable au milieu de ces frottements mille fois répétés des choses et des hommes. Ce qui m'a frappé aux États-Unis, c'est la peine qu'on éprouve à désabuser la majorité d'une idée qu'elle a conçue et de la détacher d'un homme qu'elle adopte. L'opinion générale pèse d'un poids immense sur l'esprit de chaque individu. Elle l'emporte, le dirige et l'opprime. Cela tient à la constitution même de la société, bien plus qu'à ses lois politiques. Parce que les hommes des démocraties paraissent toujours émus, incertains, haletants, prêts à changer de volonté et de place, on se figure qu'ils vont abolir tout à coup leurs lois, adopter de nouvelles croyances et prendre de nouvelles mœurs. On ne songe point que si l'égalité porte les hommes au changement, elle leur suggère des intérêts et des goûts qui ont besoin de la stabilité pour se satisfaire. Elle les pousse et en même temps elle les arrête. Elle enflamme leurs désirs et limite leurs forces. Oserais-je le dire au milieu des ruines qui m'environnent ? Ce que je redoute le plus pour les générations à venir, ce ne sont pas les révolutions. Si les citoyens continuent à se renfermer de plus en plus étroitement dans le cercle des petits intérêts domestiques et à s'y agiter sans repos, on peut appréhender qu'ils ne finissent par devenir comme inaccessibles à ces grandes et puissantes émotions publiques qui troublent les peuples, mais qui les développent et les renouvellent. Quand je vois l'amour de la propriété si inquiet et si ardent, je ne puis m'empêcher de craindre que les hommes n'arrivent à ce point de regarder toute théorie nouvelle comme un péril, toute innovation comme un trouble fâcheux, tout progrès social comme un premier pas vers une révolution, et qu'ils refusent entièrement de se mouvoir, de peur qu'on ne les entraîne. Je tremble, je le confesse, qu'ils ne se laissent enfin si bien posséder par un lâche amour des jouissances présentes que l'intérêt de leur propre avenir et de celui de leurs descendants disparaissent, et qu'ils aiment mieux suivre mollement le cours de leur destinée que de faire un soudain et énergique effort pour le redresser. On croit que les sociétés nouvelles vont chaque jour changer de face, et moi j'ai peur qu'elles ne finissent par être trop invariablement fixées dans les mêmes institutions, les mêmes préjugés, les mêmes mœurs, de telle sorte que le genre humain s'arrête et se borne, que l'esprit se plie et se replie éternellement sur lui-même sans produire d'idées nouvelles, que l'homme s'épuise en petits mouvements solitaires et stériles et que, tout en se remuant sans cesse, l'humanité n'avance plus. De Tchekhov à Vincent Thomasset, de la France rurale aux paysans égyptiens, cette édition du Festival d'automne offre un parcours passionnant de la parole intime à la parole politique, en passant par le langage des corps. Évoquons désormais une autre parole tout aussi lucide, celle d'un auteur qui n'a pas sa langue dans sa poche, l'Autrichien Thomas Bernhard. Le mois prochain, c'est le comédien Nicolas Bouchot et le metteur en scène Éric Didry qui s'empareront de l'un des romans les plus provocateurs de l'écrivain, Maîtres anciens, publié en 1985. À l'occasion de la visite d'un musée en compagnie d'un ami dénommé Rager, le narrateur règle ses comptes avec les fausses idoles du monde de l'art. Voici un extrait de ce texte rageur et ravageur qui se jouera du 22 novembre au 22 décembre au Théâtre de la Bastille. Mais cet art sur ses murs, qu'est-il d'autre qu'un art d'État, me dis-je ? Tous ces tableaux accrochés ici au mur ne sont tout de même rien d'autre que des tableaux d'artistes d'État qui conviennent à un art catholique
complaisant, rien d'autre. Toujours à nouveau seulement le mensonge et l'hypocrisie, sans la réalité et la vérité. Tout de même, tous ces peintres n'étaient rien d'autre que des artistes d'État complètement hypocrites qui ont répondu au désir de plaire de leurs clients. Rembrandt lui-même ne constitue pas là une exception, dit Reger. Voyez Velázquez, rien que de l'art d'État, et Lotto et Giotto, uniquement de l'art d'État, toujours, comme ce terrible Dürer, précurseur et prédécesseur du nazisme, qui a mis la nature sur la toile et l'a tuée, cet effroyable Dürer, comme dit très souvent Reger, parce qu'en vérité, il déteste profondément Dürer. Reger qualifie l'art de commande d'État, les tableaux accrochés ici au mur, même l'homme à la barbe blanche de Tintoret, qu'il aime tant, fait partie. Les soi-disant maîtres anciens n'ont jamais fait servir que l'État ou servir l'Église, ce qui revient au même. Un empereur ou un pape, un duc ou un archevêque. Tout comme le soi-disant homme libre est une utopie, le soi-disant artiste libre a toujours été une utopie, une folie, c'est ce que dit souvent Reger. Les artistes, les soi-disant grands artistes, sont en outre les gens les plus dénués de scrupules. Ils sont encore beaucoup plus dénués de scrupules que les politiciens. Les artistes sont les plus hypocrites, beaucoup plus hypocrites encore que les politiciens. Tout de même, cet art d'État se tourne toujours vers le tout-puissant et vers les puissants et se détourne du monde. Voilà ce que dit Reger. C'est là sa bassesse. Il n'y a rien de plus répugnant pour moi, m'a-t-il dit, que la haute société peinte. Nous le savons bien, la postérité n'a que fausseté et mensonge accrochés au mur. Ces gens ne peignaient que pour leur subsistance et pour avoir de l'argent et pour aller au ciel et non dans l'enfer qu'ils ont redouté plus que tout pendant leur vie. Tous ces artistes, ces maîtres anciens étaient corruptibles et c'est pour cela que leur art me rebute à ce point. Voilà ce qu'a dit Reger. Je suis écœuré par tout ce qu'ils ont peint et qui est accroché ici. Je me le dis souvent, a-t-il dit. Et pourtant, depuis des décennies que je viens ici, au musée d'art ancien, je ne peux m'empêcher de les étudier. Les maîtres anciens, comme on les appelle déjà depuis des siècles, ne tiennent que devant un regard superficiel. Si nous les regardons attentivement, ils se défont, s'effritent sous nos yeux et ne nous laissent en tête qu'un goût fade, oui, le plus souvent tout à fait écœurant. L'œuvre d'art la plus grande et la plus remarquable finit tout de même par nous peser dans la tête comme un morceau énorme de mensonges et de vulgarité. Ne regardez pas longtemps un tableau, ne lisez pas un livre avec trop d'attention, n'écoutez pas un morceau de musique avec la plus grande intensité. Vous vous abîmerez tout et dès lors ce qu'il y a de plus beau et de plus utile au monde. Lisez ce que vous aimez, mais ne le pénétrez pas totalement. Écoutez ce que vous aimez, mais ne l'écoutez pas totalement. Regardez ce que vous aimez, mais ne le regardez pas totalement. Parce que j'ai toujours tout regardé totalement. Je me suis finalement et définitivement tout gâché. Par là, je me suis gâché tous les arts plastiques et toute la musique et toute la littérature, a-t-il dit hier. Avec cette méthode, je me suis finalement tout gâché et je le regrette très profondément.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur, et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, doux comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche, là-bas, ce voilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Venez donc me parler d'amour à voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, la basse voilée qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse.
je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
Découvrons une autre parole chargée d'émotion qui viendra clore cette édition du Festival d'automne. Un siècle avant Thomas Bernhard, un personnage fait scandale par sa verve. Il s'agit d'Ivanov, de Tchekhov, encore lui, créé en 1887.
L'œuvre de Tchekhov est importante.
Elle est importante pourquoi ?
C'est un système quasi biologique d'étude du comportement humain.
Antoine Vitesse.
C'est-à-dire qu'on voit les conduites humaines se dessiner sur, comme sur un écran, un fonctionnement sur lequel l'auteur lui-même semble ne prendre aucun parti. C'est-à-dire qu'il y a ce regard absolument aigu et cet amusement aussi de l'auteur à regarder le fonctionnement de la vie, les mécanismes de la vie.
Avec Les Trois Sœurs, cette pièce inspirera la prochaine création de Julie Déliquet que nous évoquions en début d'émission. Son spectacle Mélancolie explorera ce thème tchékovien par excellence, le mal-être des générations face au désenchantement du monde. La pièce du collectif In Vitro se jouera le 25 novembre à la Ferme du Buisson à Marne-la-Vallée, puis jusqu'au 12 janvier 2018 au Théâtre de la Bastille à Paris. Écoutons le dernier cri de cet homme désespéré qui, après avoir trahi et perdu sa femme, renonce au bonheur d'un remariage. Nous sommes à l'acte 4, scène 10. Ivanov s'adresse à son ami Lebedev. Écoute-moi, pauvre ami. T'expliquer qui je suis, un homme ou une canaille, un homme sain d'esprit ou un psychopathe, je ne le ferai pas. Cela n'entrerait pas dans ta tête. J'ai été jeune, enthousiaste, sincère. J'ai aimé, haï, eu des convictions. J'ai travaillé et espéré comme 10 personnes réunies. Je me suis battu contre des moulins à vent. Je me suis cogné la tête contre les murs, sans mesurer mes forces, sans réfléchir, sans rien savoir de la vie. Je me suis chargé d'un fardeau trop pesant qui a fait ployer mon échine et fléchir mes jarrets. J'avais hâte d'agir, de dépenser ma jeunesse. Je me suis enivré, je me suis exalté. J'ai travaillé comme un fou, je ne connaissais pas de mesure. Et dis-moi, pouvait-il en être autrement ? Et voilà, la vie avec laquelle je me suis battu se venge cruellement. Je n'en peux plus. À 30 ans, je suis écœuré de tout, vieux. La tête lourde, l'âme paresseuse, accablée, sans foi, sans amour, sans but. Je me traîne parmi les hommes comme une ombre et je ne sais pas qui je suis, pourquoi je vis, ce que je veux. Il me semble déjà que l'amour est fade, les caresses insipides, que le travail est dénué de signification, que les chants et les discours qui jadis me passionnaient sont écoulés, bien finis. Et partout, j'apporte avec moi l'ennui, le mécontentement, le dégoût de la vie, perdu irrémédiablement. Tu as devant toi un homme qui, à 35 ans, est déjà fatigué, écœuré, déçu par ses lamentables exploits. Il se consume de honte et va jusqu'à rire de sa propre déchéance. Oh, comme ma fierté se révolte, comme la rage m'étouffe. Tiens, voilà ce que j'ai fait de moi. Je ne tiens même plus debout. La faiblesse. Où est Matveï ? Qu'il me ramène à la maison.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Olivier Dupré. Elle a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Et un grand merci à Christine Delterme du Festival d'automne et un grand bonjour chaleureux à Marie Collin. Bonne soirée et à la semaine prochaine.